Pour l'instant, on a de très bons retours, que ce soit des enfants, des adultes, des individuels, des scolaires. Donc c'est assez chouette. Et elle est visible encore un moment. Donc, tout le monde a le temps de venir y jeter son petit œil. Profiter d'une petite montée de Terry juste à côté ou d'un concert au 99 bis pour venir jeter un œil à l'expo Second Souffle.
Au 99 bis, ancien site minier de Wani, entre Lens et Douai, j'ai eu l'occasion de visiter l'exposition Second Souffle. Cette exposition d'art contemporain fait écho aux JO de Paris en présentant des œuvres dans les thématiques du sport, du mouvement et du souffle, en lien avec les activités sportives du bassin minier. Dans la salle des douches, nous y retrouvons une collecte de souffles de gens d'ici, des assemblages photos rendant hommage au football, une sculpture aussi imposante que peuvent l'être les chevalements et beaucoup d'autres œuvres visuelles, sonores et ludiques. Je vous propose une visite avec Sophie Huc, médiatrice du patrimoine du 99 bis Métaphone de Wani.
Alors c'était une volonté de notre directrice, donc Virginie Labroche, de travailler au 99 bis sur des expositions d'art contemporain, donc qui mêlent notamment art contemporain et archives patrimoniales. Et alors forcément, année Jeux Olympiques oblige, on a choisi de travailler nous sur les thématiques du sport, du souffle et du mouvement. Et donc cette exposition va présenter à la fois des œuvres d'art contemporain, mais également des archives patrimoniales qui nous ont été prêtées par l'association Oniacom et par le Centre historique minier de Le Ward principalement.
Alors, qui est à la conception, justement, parce que ça mélange, oui, des œuvres, des archives, comment ça, c'est à qui a fait tout ça?
Alors, on a travaillé pour cette exposition avec une commissaire d'exposition extérieure, Marie Duchastel, et on a ensuite produit l'exposition, nous, au 99 bis. Après, on a fait vraiment en interne, au sein de l'équipe, les choix des œuvres, les choix des archives présentées pour avoir un parcours cohérent au sein de cette salle des douches.
Alors là, on y est justement dans la salle des douches du 99 bis. On voit les œuvres autour de nous. Alors, comme on est à la radio, on n'a pas l'image, même si on mettra quelques photos sur notre site internet. Est-ce qu'on peut décrire déjà l'endroit et puis l'exposition, savoir un petit peu à quoi ça ressemble?
Alors donc ce qui est toujours extraordinaire ici quand on arrive au 99 bis, c'est déjà de voir ce lieu, cette salle des douches, donc très spécifique avec les crochets suspendus, avec les bleus de travail des mineurs suspendus. Donc c'est un espace d'exposition qui n'est pas du tout conventionnel. D'ailleurs les artistes ont dû s'adapter aussi à ces contraintes-là. Et c'est vrai qu'on a tout de suite quand on entre une œuvre qui est assez importante et qui marque visuellement tout de suite. C'est une sculpture, une installation du duo Pinafo-Pluvinage qu'on peut mettre en route. Alors on va aller la mettre en route d'ailleurs. C'est une sculpture vraiment qui s'anime, qui s'active et qui va nous offrir une chorégraphie de rubans, donc un petit peu comme des rubans de GRS. Et ce qui nous a beaucoup plu dans cette installation qui nous a été proposée, c'est que cette structure a un petit peu la forme d'un chevalement. Donc on va avoir, au lieu d'avoir des poutres métalliques enchevêtrées, là ça va être plutôt des poutres en bois, mais qui peuvent rappeler les anciens chevalements en bois. Sauf qu'au lieu d'avoir un chevalement qui va faire monter et descendre les cages d'ascenseur, ici on a un chevalement qui fait une chorégraphie de ruban, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui prend aussi de la place dans la salle des douches, puisque ça va du sol au plafond, ça prend tout l'espace entre les bancs des mineurs, donc c'est vrai que ça marque tout de suite le visiteur quand on rentre.
C'est une œuvre conçue pour cette exposition ou qui existait déjà avant ?
Alors c'est une œuvre, celle-ci, du duo Pinafo-Pluvinage qui existait. Elle a été créée l'année dernière pour l'abbaye de Fontevraud, mais par contre elle a été adaptée vraiment pour les lieux, puisque ici, alors c'est grand la salle des douches du 99 bis, mais c'est pas aussi grand que l'abbaye de Fontevraud, donc ils ont dû rétrécir et adapter un petit peu l'œuvre à l'espace. Et c'est vrai que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'œuvres dans l'exposition. Elles ont soit été produites spécifiquement pour le 99 bis, soit adaptées pour le 99 bis.
Oui, on voit des rubans... On est dans un côté un peu une tour de contrôle, chevalement. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a ces rubans qui s'activent, qui forment comme ça des espèces de rondes. C'est vraiment une chorégraphie. Il y a un côté, on le voit avec les visiteurs, on l'a fait découvrir notamment à des enfants cette semaine. Voilà, ils sont restés bouche ouverte face à l'œuvre. C'est vrai qu'il y a un côté vraiment fascinant, reposant aussi pour certains de voir ces rubans qui s'animent les uns après les autres, vraiment à la manière des chorégraphies en gymnastique rythmique.
Aujourd'hui, visite de l'exposition d'art contemporain Second Souffle au 99 bis de Wani, avec cette fois une série de photos avec des montages impressionnants.
Donc après, nous, pour faire aussi toujours le lien avec le sport, donc celle-ci, c'est assez évident, hein, le lien avec la GRS. Après, on a aussi ce qui va accueillir le visiteur en entrée. On a une série photographique donc du photographe américain Pelkas, qui est assez impressionnante également. Donc là, quand on regarde les photos, en fait, on va avoir une photo, je ne sais pas, dans un stade, sur une piste d'athlétisme, dans une piscine, où au lieu d'avoir juste, je ne sais pas, un plongeur qui va effectuer son plongeon et ses saltos, ses pirouettes, etc., on se retrouve avec une multitude de sportifs, à tel point qu'on ne sait pas si la photo est réelle, ne l'est pas, si elle a été générée par l'intelligence artificielle, si c'est du montage. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté très fouillis, comme s'il y avait un gros n'importe quoi, alors qu'on sait très bien que dans le sport, il y a des règles établies, des règles précises. Là, on a l'impression vraiment d'avoir un chaos, et d'ailleurs le photographe parle, lui, d'un chaos rythmique, parce que c'est vrai qu'on a vraiment une impression aussi de décomposition du mouvement. Et c'est vrai que sur ces photos, quand on regarde en détail, on se rend compte que ça va être le même sportif qui va être pris en photo plusieurs fois. Donc pour révéler un petit peu les secrets de l'œuvre, Pelkas, donc le photographe, il va installer son appareil photo sur un pied, il va le poser à un endroit d'un stade, d'une salle de sport, et il va prendre pendant une compétition des milliers de photos. Et ensuite, il va recomposer ces milliers d'images en une seule. Pour justement, au lieu d'avoir un sportif, encore une fois, si on prend l'exemple de la natation, un sportif qui fait son plongeon, on se retrouve avec 20 personnes sur la photo en train de plonger tout en même temps. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est assez chouette. Le truc, quand on a découvert son travail, c'est que Pelkas, il est américain et que les sports aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Donc on a fait une sélection, nous, dans son travail, pour essayer quand même d'avoir des photos qui fassent écho à la pratique sportive dans le bassin minier. Donc on a choisi beaucoup d'athlétisme, donc pour faire écho justement à de grands clubs comme l'Étoile Douani, athlétisme chez nous, la natation, le foot, bien sûr, on ne peut pas parler du sport dans le bassin minier sans parler du foot. Donc voilà, il y a vraiment une grande diversité de photos de ce photographe. Ouais. Donc c'est toujours assez impressionnant. Je sais que les visiteurs qui ont pu découvrir l'exposition pour l'instant sont toujours assez impressionnés par tout ce qui est sport de balle, parce que forcément, au lieu de se retrouver sur un terrain de basket avec un seul ballon, là on va se retrouver avec 50 ballons qui vont vers le panier, qui dribblent, etc. Pareil pour le foot, le tennis. Donc c'est vrai que son travail est assez chouette. Ce qu'il dit, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude maintenant de ces images générées par l'intelligence artificielle, lui, à l'inverse, vient nous dire « Non, moi, ce qu'on voit sur mes photos, ça existe, ça s'est produit à un moment donné dans la vraie vie. C'est juste que lui l'a recomposé dans n'importe quel sens. » Voilà, donc c'est vraiment, ça nous donne des images très colorées, très dynamiques, où il y a beaucoup de choses à regarder, des petits détails qui s'apprécient. Et même nous, après plusieurs semaines dans l'exposition, en fait, on trouve toujours de nouveaux petits détails dans ces photos.
Du tennis, l'escrime aussi.
Oui, alors la photo sur l'escrime, j'avoue qu'on l'a choisie. Au-delà du fait qu'on a un club d'escrime assez réputé à Hénin, il y a aussi le fait que là, l'escrimeur qu'il avait pris en photo était français. Donc c'était un peu le petit clin d'œil aussi à la pratique dans le bassin minier. Mais c'est vrai que voilà, on a mis de côté Pelkas, il a beaucoup travaillé aussi avec des compétitions de baseball, de football américain. Enfin voilà, des sports qu'on pratique un petit peu moins chez nous quand même.
Le bassin minier des Hauts-de-France, à travers ses activités sportives, est aussi représenté dans l'exposition d'art contemporain Second Souffle au 99 bis de Wani. Visite avec Sophie Huc, médiatrice du patrimoine.
Directement face à ces photos de Pelkas, on a fait le choix, nous, de présenter une accumulation photographique d'images d'archives, plutôt. Donc là, vraiment, pour parler du sport dans le bassin minier, au temps des houillères. Avec justement tout le paternalisme sportif qui était mis en place et qui est d'ailleurs assez paradoxal, puisque d'un côté, les compagnies des mines et les houillères vont envoyer les mineurs au fond de la mine travailler tous les jours, quelque part s'empoisonner, respirer la poussière de silice qui va leur causer bien souvent la silicose. Et d'un autre côté, on va les encourager fortement à la pratique sportive au grand air pour essayer de garder la forme le plus longtemps possible. Donc c'est quand même toujours assez paradoxal. Et donc c'est vrai que les compagnies des mines et puis les houillères plus tard finançaient énormément d'équipements sportifs, que ce soit du matériel, que ce soit des terrains, etc. Donc on encourageait vraiment cette pratique sportive des mineurs et d'ailleurs aussi de leur famille. C'est-à-dire que les jeunes galibots vont avoir dans leur cursus de formation du sport tous les jours. Dans les écoles ménagères également, il y a une des photos où on voit des jeunes filles qui se préparent à un match. Donc c'est sur leur ballon, on voit, c'est indiqué hein, F4, F11 pour la fosse 4 et la fosse 11. Donc c'est vraiment deux écoles ménagères de deux fosses qui vont s'affronter lors de matchs, et c'est vrai qu'on a voulu montrer toute la diversité de la pratique sportive dans le bassin minier. Alors à la fois le sport comme on l'entend, mais aussi un peu le sport loisir. Donc on va retrouver la colombophilie, le tir à la perche, la pêche qui d'ailleurs va plutôt pour les mineurs qui sont un peu plus âgés devenir l'un des seuls sports qu'ils vont pouvoir pratiquer, puisqu'avec la silicose et la perte du souffle, on va de moins en moins pouvoir pratiquer la course, l'athlée, le foot, le basket. Voilà, donc c'était vraiment un choix d'avoir face à justement toute cette diversité des sports présentés par Pelcas, de montrer cette diversité des sports du bassin minier.
Et là, c'est uniquement le territoire ici ou c'est plus large, tout le bassin minier des Hauts-de-France ?
Alors ici, c'est vraiment le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas spécifiquement autour de Wani ou la communauté d'agglomération et Nain-Carvin. C'est vraiment à l'échelle du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Il y a pas mal de photos qui nous ont été prêtées par le Centre historique minier de Le Ward, mais on a récupéré également des photos d'Oniacom, l'association d'histoire locale, où justement on va avoir, pour la gymnastique par exemple, l'étoile d'Oigny, là en train d'effectuer une super pyramide dans une compétition au Luxembourg. Enfin, voilà, on a pu récupérer aussi d'autres types d'archives. Et donc comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut difficilement parler du sport dans le bassin minier sans parler du foot, oui. Donc qui est quand même un peu l'institution... Ici, alors on peut parler du RC Lens, il y avait aussi bien sûr d'autres clubs moins connus. Donc c'est vrai qu'on a choisi dans l'expo de faire un petit focus aussi sur le sport qui était à la fois pratiqué par les mineurs, mais où il y avait aussi de nombreux mineurs qui étaient supporters. Donc on n'était pas juste joueurs, donc pareil, dans l'exposition, on a voulu mettre en avant ce côté supporterisme, donc avec une photo de tribune où pour le coup on ne voit pas du tout les joueurs. C'était vraiment montrer aussi toute la ferveur autour du football, qui était un sport qui va permettre de rassembler, de fédérer aussi ces populations de mineurs, leurs familles, autour de ce sport.
À présent, découvrons des œuvres autour du foot, détournées, transformées, avec beaucoup d'humour.
Donc le choix, justement, de faire ce zoom sur le foot, il s'est fait assez naturellement pour nous et en lien avec une œuvre donc, qui est l'œuvre de Robin Lobvé, qui est également l'affiche de notre exposition, le visuel. Donc Robin, c'est un artiste qui travaille la photo, le montage photo. Alors lui, il se qualifie comme bricoleur. Et on a choisi de faire appel à lui. Donc là, c'est vraiment une commande spécifique qui lui a été passée. On lui avait demandé de faire une série sur un sport en lien avec le bassin minier. Donc lui a choisi le foot. Et donc il est allé prendre en photo des footballeurs, plutôt futsal, dans sa région. Donc des footballeurs amateurs. Ça, c'est pareil, c'était vachement intéressant pour nous, le fait qu'il prenne lui des amateurs en photo, puisque la plupart des sportifs du bassin minier étaient des mineurs, donc des amateurs également. Les photos de Robin, elles sont hyper rigolotes, on le voit d'ailleurs avec la réaction des publics face à son travail. Lui, il a voulu complètement, casser les codes de la photographie sportive. C'est-à-dire quand on demande à quelqu'un comment on représente un sportif, tout de suite on va le voir avec les muscles bandés, dans sa tenue de sport, peut-être dans son stade, sa salle de sport, etc. Là, ici, c'était vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des personnages avec des bras, des jambes très très longues, tout mou, un peu comme des chewing-gums, on a l'impression d'avoir des hommes chewing-gums. Il a totalement lui aussi enlevé le fond, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir des joueurs qui sont en train de jouer dans une salle de sport, on se retrouve avec des joueurs qui jouent sur une espèce de pelouse assez abstraite, avec des couchers de soleil en fond. Donc il y a une esthétique kitsch qui est vraiment très très marquée dans son travail. Donc on est vraiment à l'opposé de l'image du sportif qu'on a pris en photo. Donc il y a un côté rigolo avec tout ça. Donc lui, un peu comme Pelkas, travaille aussi énormément le montage photographique.
Ouais, pas mal d'humour justement quand on voit les photos.
Exactement, c'est assez rigolo, mais c'est vraiment une des marques de fabrique aussi de Robin Lobvé. Il s'est fait connaître beaucoup avec une série photographique qui met en scène des chiens dans des catastrophes et des cataclysmes. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, on va avoir des espèces de gros nuages gris qui vont arriver sur New York comme une tempête, et dans ces nuages, en fait, c'est pas des vrais nuages quand on les regarde. En fait, c'est des caniches. Voilà, donc c'est des chiens géants dans le ciel. Il a plein de choses comme ça. Donc son travail, il est assez rigolo. Et vraiment, pour le coup, vous pouvez le suivre sur Instagram. Il poste plein de trucs hyper drôles tous les jours. Ça vaut le coup de suivre son travail. C'est vraiment un artiste émergent, pour le coup, que nous, on a découvert grâce au Centre régional de la photo à Douchy-les-Mines. Et voilà, et on est super contents d'avoir pu travailler avec lui sur cette exposition.
Il est de la région, ce photographe ?
Alors, il est originaire, lui, des Vosges, mais maintenant, il vit dans le sud de la France. Il fait de la retouche photo et il est artiste également. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez dingue quand on voit tous ces couchers de soleil. C'est tout juste si on ne voit pas des arcs-en-ciel. Enfin, voilà, il y a vraiment cette esthétique complètement kitsch qui est chouette ici. Et avec, c'est vrai, quand on regarde le côté absurde, parce que c'est vrai qu'au-delà de ces sportifs chewing-gum qu'on a ici, quand on regarde de près, on va voir qu'ils sont aussi un peu difformes, avec des nez, des oreilles complètement déformées. Et ça, c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt chouette, quoi. C'était aussi une des volontés de l'exposition, c'est qu'on est vraiment là sur une exposition collective avec des esthétiques très, très différentes, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver, en fait. Chacun va avoir sa petite œuvre préférée qui va le marquer, parce que, on va passer de la photographie à la sculpture, à plutôt des installations immersives. Voilà, il y a vraiment une grande diversité autour de cette thématique assez rassembleuse qu'est le sport.
Un flipper est aussi présent dans la salle des douches du 99 bis de Wany. Sophie Huc, médiatrice du patrimoine, nous explique pourquoi il y a ce flipper dans l'exposition d'art contemporain Second Souffle.
Ah oui, alors ça fait plusieurs années maintenant qu'on a aménagé notre petite mezzanine en espace un peu jeune public, détente. Donc nous, on met à dispo des jeux de société, des livres, etc. Et donc là, pour l'exposition, on a choisi d'accueillir un flipper, un vrai flipper de bar qui est accessible gratuitement et qui est évidemment en lien avec le foot. Voilà, on a choisi un flipper en lien avec la thématique de l'expo. C'était une volonté aussi que cette expo, ce soit un lieu convivial. On voulait, encore une fois, c'est notre première expo d'art contemporain, enfin qui mêle art contemporain et patrimoine. On ne voulait pas faire peur aux gens avec ça, parce qu'on sait que ça peut rebuter ou faire peur l'art contemporain. Et donc, nous, l'idée, c'était d'en faire un lieu vraiment convivial, quoi. Donc, il y a cet espace central de la mezzanine qui est dédié aux familles et à tout le monde, en réalité, où on peut faire une petite pause dans l'expo. D'autres œuvres plus loin, mais on peut aller voir le flipper maintenant, c'est comme...
Ouais, pour aller l'enregistrer.
Allez, c'est Martin Fijoux. Ben oui. Ah oui, je pense. Parfait. On va aller voir.
Merci, je vais l'enregistrer. Quelques sons.
Il
sait que ça a été raménagé, ça fait longtemps que je ne suis pas monté là.
Eh bien oui, maintenant on s'en sert vraiment d'espace jeune public, il y a des bouquins, il y a tout pour, donc en lien avec la mine, là on va en racheter aussi en lien avec le sport, et donc avec ce super flipper qui plaît énormément. Nous, on a l'impression d'entendre la musique toute la journée, donc c'est bien, c'est qu'il fonctionne.
Vous avez trouvé où un flipper, comme ça, en rapport avec le foot
Et bien là, c'est... Moi, j'avais fini à force de coups de fil à droite à gauche à trouver la société, la Nord-Jeu. Et je lui ai dit, j'en ai absolument besoin d'un flipper, mais en lien avec le sport. Et donc, il dit, le monsieur me disait, j'en ai un dans un bar, là, à Roubaix, je crois. Il dit, je peux aller vous le chercher et le remplacer par un autre. Et donc, voilà, il nous a amené ce flipper qui, pareil, plaît beaucoup. Ça vient vraiment compléter l'offre en lien avec l'expo. Et voilà, on accueillera peut-être dans les prochains mois un baby-foot aussi. Ce serait cool.
Oui.
Voilà. Ouais.
L'exposition Second Souffle au 99 bis de Wani a aussi, comme son nom l'indique, une grande partie consacrée au souffle. Sophie Huck nous en dit plus.
Continue le parcours d'expo, donc là avec une autre thématique qui peut paraître comme ça un peu déconnectée du sport, mais qui en réalité ne l'est pas, c'est qu'on a choisi d'avoir toute une salle thématique sur le souffle. Alors pourquoi le souffle ? Parce que vraiment c'est une notion qui va faire le lien entre les mondes de la mine et les mondes du sport. Alors sur le sport, évidemment, c'est assez évident, la gestion de son souffle pour la performance sportive est primordiale. Mais c'est quelque chose qui va aussi être important pour les mineurs, pour la mine, et le souffle, c'est malheureusement quelque chose qu'ils vont perdre progressivement, d'année en année, à force de descendre au fond de la mine. Donc on a vraiment choisi de faire un focus dans l'exposition sur le souffle. Cette thématique-là, elle est exposée nous, dans les lavabos, donc dans les anciennes douches collectives des mineurs. Et donc on va avoir une première œuvre qui va nous mener justement à ces lavabos comme un espèce de cheminement. Donc ce sont des textiles suspendus, donc encore une fois c'est une forme vraiment d'hommage aussi à la salle des douches et au fait que les vêtements soient suspendus comme ça au plafond. Donc ici on va avoir une œuvre de l'artiste Clément Le Saffre qui avait travaillé il y a quelques années dans le bassin minier avec des projections, des portraits sur les terris. Là nous on a fait appel à lui pour tout à fait autre chose puisque cet artiste est également apnéiste. Il a un profil intéressant parce qu'il est à la fois artiste et sportif, donc il est champion de France d'apnée dynamique et il travaille beaucoup justement au fond de l'eau. Et c'est vrai que nous on y a vu tout de suite un écho avec la descente des mineurs au fond de la mine et c'est vrai que ça me faisait penser à un témoignage d'un ancien mineur avec qui on faisait les visites il y a quelques années maintenant, et ça m'avait beaucoup marqué. Il racontait aux visiteurs que lui, quand il descendait au fond de la mine, quand il remontait, il avait l'impression de respirer de nouveau. Et c'est vrai, quand j'ai vu cette œuvre, ça m'a vraiment fait penser à ça, parce qu'à la fin, on a vraiment la remontée comme ça de l'apnéiste avec cette respiration. C'est, en regardant, je trouve, les œuvres, on a vraiment l'impression de l'entendre respirer de nouveau. Ça va être une œuvre où on la découvre en fait en marchant, en avançant, et c'est un peu cette œuvre-là qui nous guide jusque dans les lavabos, donc dans la douche collective des mineurs, où là sont présentées à la fois des archives patrimoniales et des œuvres. Les souffles. Donc ici, en fait, on a fait appel à un artiste du sonore qui s'appelle Antoine Bertin, qui nous a fait une création spécifique pour le métaphone, pour la peau sonore du métaphone. Lui souhaitait donc travailler sur le souffle et notamment enregistrer les souffles d'anciens mineurs silicosés, notamment, et de sportifs du territoire. Donc à partir de cette collecte de souffles, il a fait une création sonore donc, pour le métaphone. Et ici, dans les lavabos, il présente en fait les souffles bruts qui ont été collecté. Donc ici, en l'occurrence, on a fait appel à l'étoile Douani. Donc il y a deux jeunes sportifs de l'étoile et un entraîneur qui est là depuis de nombreuses années, qui a déjà été d'ailleurs interviewé par Radio Scarpe Sensei il y a quelques années, donc Zénon Turbanski, donc qui lui aussi nous a donné son souffle. Et on a également un ancien mineur, donc légèrement silicosé. Voilà, donc ces personnes-là ont été mises en situation, pas de stress respiratoire évidemment, mais voilà, de course, de marche rapide, d'efforts en fait pour collecter différents types de souffle en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment tout le travail proposé par Antoine Bertin. Donc la création en elle-même, et on peut l'écouter au métaphone toutes les heures. Dans les lavabos on entend vraiment plutôt la collecte de souffle. Donc on va également retrouver deux autres œuvres, donc ici notamment toute cette série de miroirs. On va avoir ici 8 miroirs qui sont présentés dans les lavabos, qui sont des miroirs de barbier. Honnêtement, quand on les voit comme ça, si on n'avait pas mis nous un petit cartel précisant que c'est une œuvre, on a l'impression qu'ils se fondent dans le décor, on a l'impression qu'ils étaient là du temps des mines. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces miroirs, on s'en approche et on peut souffler dessus.
Ah oui. Apparaître des inscriptions.
On voit apparaître des mots qui, pour le coup, sont en lien justement avec cette notion de souffle. Donc là, encore une fois, c'est une œuvre qui existait mais qui a été totalement adaptée par l'artiste. Donc ici, cet artiste s'appelle Jean-Baptiste Caron. C'est un peu un magicien de l'air. Lui travaille beaucoup sur des œuvres justement qui mettent en scène l'air, donc qui est pas facile, c'est quelque chose par nature de totalement invisible, impalpable. Et justement, il va essayer de rendre ça plus palpable et tangible. Et donc là, ce qui est assez chouette, c'est qu'il va prendre un objet totalement banal, le miroir, avec un geste totalement banal, le fait. de souffler, c'est ça qui va créer l'œuvre. C'est vraiment le souffle, et au final, le temps qu'on lise l'inscription et qu'on se recule, elle a déjà disparu, cette inscription. Donc ça paraît assez magique comme ça, bah, sinon c'est de simples miroirs, et c'est vraiment le fait de souffler qui vont venir créer l'œuvre. Et ici, encore une fois, bah, l'artiste s'est vraiment inspiré des lieux, c'est-à-dire qu'on lui a envoyé de nombreuses vidéos qui parlaient justement des mines, des mineurs, de la silicose, et il s'est inspiré de tout ça pour créer, lui, justement, ces phrases, ces petits mots qui sont indiqués sur les miroirs. Donc c'est un travail, ouais, c'est un travail qui est vraiment assez, assez chouette, et que nous, on met directement en lien avec une vidéo d'archives sur la silicose, donc qui explique ce qu'est la silicose, et on a également récupéré des radios de mineurs silicosés, donc pour vraiment qu'on se rende compte de ce que la mine faisait aux mineurs pendant, voilà, pendant toutes ces années, toutes ces respirations. Alors ici, on a une sculpture de l'artiste Caroline Leméauté, donc qui est une terre qui respire. C'est-à-dire que quand on rentre dans la salle, on voit bah, cette espèce de tas de terre, donc c'est la tourbe de coco. Et quand on s'approche, en fait, on se rend compte qu'il y a un délicat mouvement qui vient animer en fait, ici cette terre, comme si elle respirait. Donc forcément, bah, une terre qui respire, ça fait vraiment écho, pour le coup, à l'histoire minière ici et au lieu, puisqu'on a vraiment voilà, la sensation de respiration qui est accentuée en plus par les respirations qu'on entend. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'au niveau de son histoire personnelle, Caroline Leméauté est quelque part aussi reliée à la mine, puisque ses grands-parents étaient également mineurs. Alors, pas dans la région ici, plutôt dans le sud de la France. Mais voilà, donc pour elle, ça faisait aussi sens d'exposer ce travail ici au sein du 99 bis. Donc on voit vraiment ici cette terre qui respire. Alors ça peut avoir, c'est pareil, au niveau des ressentis des visiteurs, parfois certains vont trouver ça assez anxiogène, voire effrayant d'avoir cette terre qui respire, on a l'impression d'avoir quelque chose qui va sortir, ou alors ça fait écho aussi à une histoire douloureuse. Et d'autres, en fait, vont trouver ça assez apaisant et vont presque venir, comment dire, caler leur respiration, en fait, sur la respiration de cette terre, et on a vraiment, en fait, on voit au fur et à mesure des respirations justement la terre qui bouge, qui tombe un petit peu, on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose de vivant en fait.
Il y a plusieurs enceintes en plus pour diffuser toute oui. La pièce, hein, c'est ça le
exactement.
Son
exactement, ouais là on a avec les respirations collectées par Antoine Bertin, on a vraiment l'impression, plus il y a une résonance dans la salle qui fait qu'on est complètement habité par ces souffles. C'est complètement immersif quand on rentre dans cette salle. Les souffles sont partout autour de nous. Alors c'est pareil, hein, y en a qui vont trouver ça stressant, d'autres apaisant. Mais forcément, il y a des souffles parfois très calmes, et il y en a d'autres, on va vraiment, assez plus violent, on va dire.
Nous arrivons à la fin de la visite de l'exposition Second Souffle dans la salle des douches du 99 bis Métaphone de Wani. Sophie Huc nous présente une œuvre aussi bien visuelle que sonore qui se trouve dans l'obscurité et qui est comme une performance de ping-pong.
Et donc on a une dernière œuvre dans le Balatum qui se situe à la fin du parcours d'exposition, ce qui est, en plus, moi je trouvais que c'était une chouette conclusion, parce que c'est vraiment une œuvre qui va reprendre un peu toutes les thématiques de l'expo, donc à la fois le sport, le souffle et le mouvement. Donc c'est une œuvre du vidéaste suisse Greg Barth. Et donc là, pour le coup, c'est une œuvre qui existait, mais qui est venue complètement adaptée pour les lieux. On va aller voir ça, c'est vraiment assez immersif. Thank you. Là, on est vraiment sur une œuvre qui nous prend comme ça au trip, qu'on vit totalement, parce qu'on a réaménagé nous totalement notre balatum, donc c'est vraiment une grande pièce noire. Et c'est vrai que du coup, l'œuvre vient vraiment nous saisir ici, tant au niveau visuel que sonore. Donc on est dans une immersion totale. Et donc c'est vrai que pour la décrire un petit peu, on a des raquettes de ping-pong et des balles qui sont là, présentes. Ça, c'est vraiment une sculpture, installation, et sur laquelle, en fait, on va venir projeter de la lumière. Donc, c'est un mapping qui a été fait et qui montre les trajectoires d'une raquette et de balles. Donc, ce qui fait qu'on va éclairer les balles à un rythme assez effréné, mais une par une, pour vraiment donner une impression du mouvement et de la décomposition du mouvement. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu écho aux travaux photographiques de Marais, donc, qui datent du 19e siècle, où justement, on va avoir les toutes premières décompositions du mouvement avec l'invention de la chronophotographie, qui vont nous permettre de pouvoir commencer à étudier le mouvement, se rendre compte qu'un cheval au galop, il y a un moment donné où ses jambes ne touchent plus le sol. On va pouvoir décomposer des mouvements de sportifs sur du saut à la perche, sur vraiment tout type de sport. Donc c'est vrai que l'œuvre ici de Greg fait vraiment penser à ça, avec cette décomposition du mouvement. Et c'est vrai qu'ensuite, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte aussi que là, on n'est pas face à un match qui est en train de se jouer, mais on est sur un joueur seul qui est en train de taper comme ça dans sa balle avec la raquette de ping-pong à un rythme de plus en plus rapide, mais un petit peu en vain quelque part, parce qu'il joue tout seul, c'est pas un match. Et c'était vraiment là l'idée aussi pour l'artiste de montrer le côté obstiné parfois à l'extrême qu'on peut avoir, nous, être humains, c'est-à-dire aller s'obstiner à faire quelque chose qui paraît totalement vain comme ça. Et donc c'est pour ça que là on voit vraiment ces balles qui s'agitent dans tous les sens sans vraiment avoir de but en fait, et avec cette respiration qui s'accélère au fur et à mesure que l'œuvre défile. Donc c'est une pièce qui dure 2-3 minutes maximum, mais voilà, encore une fois, qui prend vraiment aux tripes. Pour ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on vient vivre l'expo comme ça. Nous, on va y rester quelques minutes. Mais c'est vrai qu'ici, l'artiste, au-delà de la conception de l'œuvre, il a vraiment travaillé, il est vraiment venu en résidence au 99 bis pendant quasiment une semaine pour pouvoir déployer ce travail avec l'aide de nos collègues ici. Donc on a nos collègues notamment de la technique. Je pense à ma collègue Pauline qui a vraiment travaillé avec lui sur le mapping. Enfin voilà, nos collègues qui ont aussi aidé à installer. C'est vrai que dans l'art contemporain, peut-être que plus que dans d'autres courant artistique, on va avoir aussi un travail d'équipe qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont travailler seuls et d'autres qui vont vraiment avoir toute une équipe autour d'eux pour les aider. Et là, c'est vrai que le travail de Greg, il a pu être aussi réalisé avec l'aide extérieure pour la programmation, le mapping, etc. Et c'est assez chouette. Enfin, c'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui, équipe du 99bis, de pouvoir présenter cette expo à notre public.
Pour terminer ce reportage, Sophie Huc, médiatrice du patrimoine au 99 bis, nous parle de toutes les activités autour de l'exposition Second Souffle.
Un mercredi par mois, on va retrouver un atelier pour les 3-6 ans le matin, un atelier pour les 6-12 ans l'après-midi. Pareil, une fois par mois, on va avoir une rencontre. Donc on a par exemple soirée-jeu, rencontre avec des sportifs du territoire, émission de télé en direct avec nos collègues d'ILTV, rencontre avec les artistes bien évidemment. Et puis pareil, une fois par mois, un dimanche matin, on va avoir une découverte un peu détente de l'expo. Donc soit sport via un jogging guidé, via du yoga dans l'expo, ou sinon plutôt artistique. On va faire de la broderie pour broder un peu son mantra sportif sur des images d'archives. Voilà, on va tester la technique du monotype qui est utilisée par Clément Le Saffre qui fait les grands textiles. Voilà, et enfin on a également un dernier rendez-vous, c'est pareil, une fois par mois, un mercredi après-midi, c'est une visite plutôt insolite de l'exposition. Donc soit visite comptée avec la compagnie Louro-Bourros, soit visite décalée donc avec Martin Granger de Metal UHAUT, soit des visites dansées donc avec le Ballet du Nord. Donc il y a tout pour essayer de varier les plaisirs et découvrir l'exposition justement de manière différente. Et sinon, après, pour le reste, on peut venir la découvrir. On a un médiateur qui est présent, voilà, et qui peut donner toutes les informations sur les œuvres, si les gens ressentent le besoin.
Et c'est sur réservation, hein, tout ce qui est autour de l'expo ?
Alors, tout ce qui est autour de l'expo est sur réservation. Donc, les rencontres sont gratuites. Par contre, les ateliers jeunes publics, les dimanches détente et les visites insolites sont payantes. C'est un tarif unique de 3 euros et c'est gratuit pour nos abonnés. Et pour les moins de 6 ans, sauf les ateliers jeunes publics. Voilà. Dans tous les cas, il y a toutes les infos sur le site internet du 99bis. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous passer un petit coup de fil si on veut plus d'informations sur le contenu des soirées, des ateliers, des visites, etc.
Et si des auditeurs et auditrices veulent venir voir l'expo, c'est ouvert à quel moment
l'exposition ? Alors, l'exposition est ouverte du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. C'est également ouvert le dimanche matin, de 11h à 13h. Donc ça, jusque début novembre. Début novembre, on va entrer, nous, un petit peu, alors pas en hibernation quand même pas, mais en période hivernale, où là, on va ouvrir plus que les week-ends, donc les samedis et dimanches après-midi de 14h à 18h.
Jusqu'au 8 décembre, c'est ça ?
Voilà, sinon l'exposition, elle se termine le 8 décembre.
C'était la visite de l'exposition Second Souffle en compagnie de Sophie Huc, médiatrice du patrimoine. Vous pouvez voir l'exposition dans la salle des douches du 99bis jusqu'au 8 décembre 2024. Plus d'infos sur le site 9-9bis.com et sur les réseaux sociaux. La puce à l'oreille, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour d'autres reportages en région. À bientôt.